Et salut à tous, c'est Julien de Pim de Cloud. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous parler de Azure Ressources Manager. Donc pour ceux qui me connaissent, c'est un peu mon sujet de prédilection. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je sais que j'ai déjà fait des vidéos, j'en ai déjà parlé dans des conférences, mais je voulais insister, je trouve qu'il n'y a pas assez de contenu en français. Donc je vais essayer d'expliquer pour les personnes, on va dire niveau 100, niveau 200. Allez, niveau 300 grand maximum, il y aura quelques phases de niveau 300, c'est au niveau de l'outillage. Le but, c'est en 15-20 minutes, je n'ai pas envie que ça soit trop long, c'est vous faire une petite introduction à qu'est-ce que c'est Azure Ressource Manager. Alors, peut-être que vous avez entendu déjà parler de, comment dire, les ressources groupes. C'est sûr que si vous faites au moins du Azure, un peu quelques heures par-ci, par-là, quelques minutes par jour, via le nouveau portail, vous avez forcément vu des ressources groupes de ressources, le portail en français. Donc, qu'est-ce que c'est en gros ARM, donc Azure Ressource Manager, les ressources groupes. Microsoft va en parler de plus en plus et à différents niveaux. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que on a aussi dans la suite System Center, j'ai même le beau t-shirt aujourd'hui, c'est pas fait exprès, mais on a parlé d'Azure Stack. Microsoft parle d'Azure Stack. Azure Ressource Manager a un gros jeu là-dedans, un gros impact là-dedans. Donc, en gros, un point de vue DevOps, Azure Ressource Manager, c'est la possibilité de créer des environnements. Il y a des groupes de ressources assez simplement dans Azure. Donc, je m'explique. Microsoft part du principe que tout est ressource. Donc, si vous créez un web app, une machine virtuelle, même un réseau, même un compte de stockage dans Azure, c'est une ressource. À partir de ce moment-là, une ressource, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez la faire interagir. Donc, vous pouvez l'utiliser à différentes sauces. Je m'explique. Vous faites une VM, vous avez besoin d'un compte de stockage. Quand vous faites une VM dans Azure, une machine virtuelle en mode IaaS, vous avez besoin d'un endroit où stocker le compte de stockage. Vous avez aussi par défaut ce qui vous est via l'ancien portail, le manage-windows-azure.com, et vous créez un cloud server. Bref, chaque entité est une ressource. Et vous allez voir qu'en fait, quand je fais l'analogie, ou n'importe qui fait l'analogie des boîtes de Lego, qu'est-ce que c'est Azure Resource Manager? C'est tout simplement des boîtes de Lego encore plus fines. On va dire qu'avant, on avait des Playmobil, des gros Lego. Là. Maintenant, on a des vrais Lego tout fins où on peut construire vraiment. À l'infini, reproduire nos environnements un peu comme on veut et jouer avec. Donc, d'un point de vue DevOps, c'est très intéressant. J'ai la possibilité, par exemple, prenons comme exemple SharePoint, de créer un environnement avec ses ressources, donc c'est-à-dire trois VM avec trois comptes de stockage, des IP différents, des IP publics, des IP privées, un virtual network, de le répliquer dans n'importe quelle subscription via un code JSON, via un template ARM, de le reproduire. Donc, je vais essayer de vous le. C'est pas facile quand même de l'expliquer à une personne qui n'a jamais entendu parler de ça. Je vais essayer de vous le, de le faire paraître via les plateformes et les outils que Microsoft nous propose. Donc, parlons de l'ancien mode. Si on parle de l'ancien mode, qu'est-ce qu'on a V jusqu'à présent? Je suis dans une description Azure, tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai envie de créer par exemple une VM, chose qu'on maîtrise tous, qu'on connaît très bien. Avant, qu'est-ce que je faisais? Nouvelle virtual machine. Je partais de la galerie et puis je choisissais dans ma galerie une VM. Un Windows 12, Windows Server 2012 R2, Data Center, je l'appelais Julien Test, soyons original, je prenais un Basic parce que j'ai pas envie de payer cher, on va dire, ou un standard, whatever, enfin peu importe, un D1, je mets un utilisateur et un mot de passe, et hop là, je me suis trompé, et on faisait donc. Suivant, ici j'avais la possibilité soit d'en créer un avant ou alors si on l'avait pas fait de créer un cloud service. Donc là c'est quand même une notion importante à comprendre. Un cloud service, comme moi je l'explique, un cloud service c'est quoi d'un point de vue IaaS, d'un point de vue de VM, quelqu'un de très IT pro, c'était, j'appelais ça, je raisonnais comme une bulle. Je disais en général, pour ce que vous voulez vulgariser, c'était une bulle dans laquelle un conteneur, on va pas parler de conteneur aujourd'hui, mais on va dire une bulle dans laquelle je mettais du computing, je mettais mes machines virtuelles. Cette bulle, quand je la créais, donc mon cloud service, me fournissait une VIP, une virtual IP, donc en gros c'était une adresse IP accessible externe, avec un nom DNS. Donc c'est ici, c'est ce qu'il me demande, cloud.net. Donc ici, si je veux ma VM, vous avez vu, je fais le précédent, elle s'appelle Julien Test, donc ça c'est comment elle va être nommée dans le portail Azure. Mais ici, c'est le nom DNS, le nom public de mon cloud service, de ma fameuse boîte là. Ma fameuse bulle dans laquelle je vais mettre ma machine virtuelle. Donc je pourrais très bien l'appeler autre chose que le nom de ma VM, je prenais démo channel 9, .clairdot.net. Alors, c'était un nom public, que on est vraiment dans Azure. Il faut bien faire attention. Microsoft me dit, OK, ce nom n'est pas utilisé par d'autres personnes. Donc, l'endroit où je voulais créer ça, pareil, vous vous souvenez, je vous avais dit forcément, où est-ce que je vais stocker mon VHJ, mon disque dur virtuel? Là, alors moi, ce que je fais en général, je le crée d'avance parce que j'ai pas envie qu'il me génère quelque chose automatiquement, mais là, je vais le faire pour la démo. Pourquoi je voulais le créer avant? Parce qu'en général, ce qu'il fait, il vous met un nom qui a pas de sens là, puis c'est assez compliqué à renommer par la suite. Mais bon. Et on va faire suivant. Suivant, on installe l'agent et on va provisionner notre machine virtuelle. Donc, derrière les scènes, qu'est-ce que ça fait? Vous avez vu que derrière, je suis vraiment parti from scratch. Là, c'est vraiment une subscription que j'ai créée qui est toute neuve. Dedans, qu'est-ce que ça va faire? Ça va valider. Ça va me créer. Donc, ici, vous avez vu que je suis en train de provisionner ma machine. Mais je n'avais pas de cloud service. Donc, ça va me créer un cloud service. Mais avant tout, qu'est-ce que ça va faire? Ça va me créer un compte de stockage aussi. Donc, on va attendre que ça finisse et on va rentrer un peu plus en détail là-dedans. Donc, ça va prendre 1 ou 2 minutes. Puis, je vous reprends juste après. Donc, ma VM est toujours en cours de création, mais par contre, ce qui est intéressant de voir, comme je vous disais, c'est qu'il vient de créer le cloud service, oui, déjà créé, et m'a créé le compte de stockage, donc bien moche, avec le nom, vous voyez, Portal VHD, blablabla, 3WL4, ça c'est le pain quand on le laisse créer lui-même les choses, mais c'est correct, c'est pour une démonstration de toute façon. Il m'a créé un conteneur VHJ, puis dedans, il est en train de mettre mon 127 Go, donc l'OS de ma machine virtuelle. Jusque-là, tout est normal. Qu'est-ce que ça fait également? Ça crée un cloud service, comme je vous disais, donc Demo Channel 9 avec l'URL qui est demochannel9.cloud.net. Et dedans, si je vais dans l'overview, je vais voir que j'ai ma machine qui est en train d'être créée dedans. Donc, si je vais dans les instances, vous voyez, j'ai Julien Test, la machine, donc qui est membre de cette boîte. Vous vous souvenez, hein? Ouais, j'ai vulgarisé en parlant de boîte ou de bulle. Aussi, ce qui est intéressant de savoir, dans un cloud app, dans un cloud, pardon, cloud service, j'ai aussi une public IP qui est une VIP, donc qui est fournie, la manière de se connecter à distance, d'interroger depuis Internet ce cloud service. Puis j'ai également, pour chaque endpoint, donc j'ai laissé par défaut le RDP et le PowerShell, le Remote PowerShell. Donc le RDP, on sait qu'il crée un port public random, donc aléatoire pour se connecter en 3389 à l'intérieur. Et enfin, les informations du Remote PowerShell. Puis d'autres informations. Donc ce qui est intéressant de savoir, on va appeler ça comme le mode classique, c'est comme ça que Microsoft l'appelle aujourd'hui. Quand vous créez une machine virtuelle dans le mode classique, il y a le portail classique, on va appeler ça, on peut appeler ça comme ça nous crée donc trois ressources, si on va appeler ça comme ça, enfin un nombre de ressources, ça nous crée une machine virtuelle, un cloud service et un compte de stockage. Du moins, ça interagit avec ça. Ce qui est intéressant de voir, c'est dans le nouveau portail, le plus récent, le portail.azure.com, comment ça marche? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Sensiblement la machine, la même chose, pas grande surprise jusque-là. Donc, si je vais dans toutes mes ressources et que je les trie par subscription, donc c'est la bonne. Donc, j'ai toujours mon cloud service, ma machine virtuelle et mon compte de stockage. Okay? Donc, voici le mode standard, le mode classique. Puis d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez vu que j'ai certains acronymes classiques pour certaines ressources. Là, je suis en train de vraiment, vous avez vu qu'à Microsoft est maintenant la page, chaque élément dans Azure est une ressource. Donc, le service bus, enfin, tout, 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 tout. Nous, si on va dans les virtual machines, vous avez vu que j'ai un mode classique. Donc, si je vais dessus, avec un logo différent, si je vais dessus, je vais bien retrouver ma machine en mode classique, Julien Test. Et enfin, j'ai Virtual Machine sans rien. Donc, qui sera un mode nouveau, le nouveau mode, ce qui n'est plus classique, pour interagir. Donc, il dit qu'il n'y a aucune machine virtuelle. Donc, c'est une première notion qui est très importante à voir dans le Azure Resource Manager, du moins dans un mode ARM, dans un mode de ressources. C'est lorsqu'on crée des portails via l'ancien portail, d'accord, appelons-le comme ça, le management Windows Azure, il nous crée donc des machines en mode classique, avec un certain nombre de ressources. Ok, j'espère que jusque-là, tout le monde suit. Maintenant, ce que je vais faire, via le nouveau portail, c'est une des énormes différences, il y en a plein, hein, qui sont avec le nouveau, entre le nouveau et l'ancien portail, je vais faire exactement la même chose. Je vais faire dans le computing, créer une nouvelle VM de type Windows Server 2012 R2. Et je vais faire un Create. Vous voyez en bas, j'ai l'option de faire Create. Mais j'ai ici, à la différence de l'ancien portail, l'option de créer via un mode classique, déploiement modèle classique ou ressources manager. Donc, vous voyez la différence. Donc, si on fait classique dans un premier temps, qui reviendrait exactement à la même chose que l'ancien portail, très brièvement, mais ça va me demander exactement les mêmes informations, voire plus, mais en tout cas, c'est le même principe, hein. Le nom, le username, le password, combien on veut payer, quel type de template on veut. J'ai plus d'options dans le nouveau portail, notamment pour l'auto-join, en fait, tout ce qu'on pouvait faire en PowerShell avant, hein. Est-ce qu'on veut configurer déjà l'heure à l'intérieur de la machine? Est-ce qu'on va la joindre à un domaine, etc. Sur quelle subscription, la location. Et enfin, vous voyez, dans le nouveau portail, à chaque fois qu'on crée des éléments, j'ai toujours la notion de groupe de ressources qui apparaît. Donc, ici, j'ai la possibilité de créer cette VM dans un groupe de ressources, un endroit où je vais pouvoir retrouver un ensemble de ressources. Donc, si je crée une VM qui interagit avec un compte de stockage et un cloud service, j'ai la possibilité pour des facilités de management, pour gérer, de le mettre dans un groupe de ressources. D'accord? On y reviendra de toute façon, vous inquiétez pas pour ça. Donc, mode classique, d'accord? Classique, comme le dit son nom, on crée des VM classiques comme on savait faire pour ceux qui utilisent Azure depuis un moment, déjà comme on sait faire. Je vais le créer en mode ressources manager, puis je vais faire un create. Là, n'y a pas de magie non plus, hein, on ne va pas me demander des choses différentes, mais dans un autre modèle. Ici, on me demande donc les basics. On me demande, OK, en gros, le nom de ta machine, on va le voir. Le username, le password, les choses basiques à ta ressource. Donc, on crée une machine virtuelle. On va l'appeler Julien ARM Channel. Je pense que c'est pas plus de 15. C'est ça. Donc, on va l'appeler démo ARM Ju. Ok, username. Donc, toujours pareil, l'admin de la machine, la subscription sur laquelle on va la mettre. Bon, c'est pas la bonne. Un petit nom de description, ça va être celle-ci. Le groupe de ressources dans lequel on va le faire, donc ça commence à être intéressant. Alors là, on a le choix aux espaces, on peut faire ce qu'on veut. Démonstration, pour vous montrer par exemple des fois, démonstration ARM Channel. M'a fait mentir. Underscore période, etc. Ok, donc on peut pas mettre d'espace, donc au moins. Et bon, on peut faire des dashs, c'est intéressant. Donc, on peut à la rigueur faire comme ça. Okay. Puis, enfin, l'endroit où on va le faire. Donc, ça, c'est vraiment les basics. On fait OK. Ensuite, on va demander le size. Donc, D1, A1, G1, ce qu'on veut faire. On va rester dans du D1, select. Enfin, les options, donc tout ce qui est optionnel, dans le niveau des paramètres, donc le stockage, le network, monitoring et level ici. Donc, le type de stockage. On va rester standard, donc possibilité facilement de switcher notre ressource en DS, donc en Premium Storage. Le Storage Account, donc c'est pas, là c'est toujours pareil. Donc là, chose qui est intéressante, les ressources entre elles, vous vous souvenez que j'ai quand même un compte de ressources, un compte de stockage classique qui existe, de par mon démonstration avant, les ressources ne peuvent pas interagir entre elles. Soit vous faites 100% du mode classique, soit 100% du mode ARM, Azure Resource Manager, mais vous ne pouvez pas faire de l'hybride entre les deux. Donc ici, pas le choix, je vais devoir en créer nouveau. Je vais devoir créer une nouvelle ressource de type stockage. Et là, la beauté, c'est que vous avez vu que je peux le nommer. Je ne vais pas laisser Microsoft nommer automatiquement mon compte de stockage. Nommage dans un compte de stockage, donc pas le droit majuscule, hein, vous avez vu que si je mets un P majuscule, il va me dire attention, tu n'as pas le droit. Donc là, c'est vraiment du minuscule. On va l'appeler stockage. ARM, puis je peux même pas faire de majuscule, pas d'espace, rien du tout. Stockage ARM, démo. Je pense que ça devrait passer. Parfait. On va lui dire qu'on veut du LRS parce qu'on n'a pas envie de payer plus cher. Donc, local redondant. LRS, on va dire OK. Est-ce qu'on va activer les diagnostics sur ce compte de stockage? Non. OK. Donc là, il y a une première notion qui est intéressante à voir, c'est que ce qu'il va faire, il va nous créer un compte de stockage qui s'appelle stockage ARM démo, mais les ressources de la manière que ça marche, c'est comme pour les développeurs, comme quand on fait du développement en programmation orientée objet. Lui, il est capable de savoir qu'avant de créer, en fait, comme dans le mode classique, hein, avant de créer notre VM, il faut qu'il crée la ressource du stockage qui s'appelle stockage ARM démo. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Un network. Donc dans ARM, forcément, on a automatiquement la notion de network qui apparaît. Il me propose déjà d'en créer un qui s'appelle Démonstration ARM Channel 9, qui est le même nom que mon groupe de ressources. Peut-être pas l'appeler comme ça, on va l'appeler Vinette Démo. On va laisser tout ce qu'il y a de plus normal, c'est le défaut que là, etc. C'est juste que je vais le nommer un peu plus joliment. Ok, default. Dans quel subnet on va le mettre? On va le laisser dans default. Bon, c'est moche comme nom, mais au moins on laisse là-dedans. Est-ce qu'on veut une adresse, une VIP, une virtuelle IP? Donc lui, automatiquement, il va en créer une nouvelle qui s'appelle Demo ARM Jules. Donc là, c'est une première notion qui est intéressante. Si vous vous souvenez bien, dans le mode classique, je n'avais pas le choix. Enfin, c'est pas que j'avais pas le choix, mais automatiquement, elle était créée. Puis, je n'avais pas le choix. Si je voulais en créer plusieurs, vous savez qu'on peut créer, ou pas, vous savez peut-être pas qu'on peut créer plusieurs VIP pour un cloud service, pour ma petite boîte. Ici, j'ai la notion de gérer une VIP, donc une publique, une adresse publique, comme une ressource. Donc ici, par défaut, on en crée une qui s'appelle Demo ARM Jules. Je vais faire OK. Où je peux ne pas en mettre. Chose qui peut être intéressante aussi, de dire, OK, ma ressource qui est ma machine virtuelle, je veux seulement qu'elle communique dans un virtual network via mon VPN, site-to-site, donc c'est-à-dire via mon infrastructure on-prem, mais je ne veux pas qu'elle accède à l'externe. Ça peut être aussi intéressant. Donc vous voyez, c'est déjà l'exemple du Lego plus fin, de pouvoir jouer avec de la granularité de nos environnements Azure. Ben, dans un mode ARM, on est déjà c'est déjà plus facile de faire ça. Ensuite, est-ce que je veux créer des ACL, Network Security Group? Alors, toujours dans l'exemple de dire, OK, je veux que ma VM soit accessible de l'externe, cette fois-ci via ma VIP, mais je veux par contre que, chose qu'on faisait avant, mais beaucoup plus granulaire, de dire seulement le remote desktop est autorisé, je veux que seulement le port 80 soit autorisé en entrée mais pas en sortie. Donc, on est déjà beaucoup plus granulaire qu'un cloud service. Le monitoring, je vais désactiver. Et enfin, si on voulait faire un IEEE 17, qui peut être très intéressant pour une machine virtuelle, d'accord, de mettre deux machines ensemble dans le même groupe de disponibilité. Donc là, j'ai déjà tout un summary qui se met. Donc voici le nom de ta machine, etc., etc. Puis on fait OK. Donc ce qu'il fait, il va créer un déploiement. Hop. On fait Create. Il va créer un déploiement, un package de déploiement d'un groupe de ressources qui s'appelle, vous vous souvenez, je pense qu'on l'a appelé démo chez Nine, on va aller voir. Où dedans, il va me créer une machine virtuelle avec un VNet, donc, qui est connecté à un VNet, connecté à un compte de stockage, avec une virtuelle IP et une ACL, un groupe de sécurité dedans. Donc, si je clique dessus, ce qui peut être intéressant de voir, justement, c'est le summary, où on en est, donc il est en train de déployer, puis enfin, tous les éléments que j'ai mis comme dedans, toutes les inputs, toutes les configurations que j'ai faites. Donc là, ça commence un peu à ressembler à, comme je vous disais, la beauté, c'est de pouvoir répliquer ce groupe de ressources. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, j'ai créé un groupe de ressources que j'ai appelé démonstration, vous voyez ici, démonstration ARM Channel 9, qui contient dedans une VM, un compte de stockage, une IP publique, etc., etc. Donc, ce qui veut dire que j'ai la possibilité facilement de le prendre et le répliquer plusieurs fois, dans plusieurs subscriptions. Ça peut être intéressant. Souvent, j'ai comme question, OK, moi j'utilise mon MSDN, quand on est dans l'environnement de développement, avec beaucoup de développeurs ou un certain nombre de développeurs, j'utilise mon MSDN et j'aimerais transférer ce que je fais à l'un à l'autre. Ça peut être un bon moyen aussi. Dans un mode DevOps, ça peut être concevable de dire l'ETI gère, ou l'ETI, ou en tout cas l'administrateur, gère un environnement de développement pour mes développeurs, où ça fournit l'environnement Azure, la couche Azure, légalisée pour l'entreprise, laquelle on supporte. Ça peut être intéressant de fournir, voici le script, parce que ce que je vais vous montrer juste après, comment scripter ça. Donc là, vous avez vu qu'on est passé à travers un certain nombre de clics, mais la beauté, c'est qu'on va pouvoir scripter via du JSON cet environnement-là. Donc, opération detail, donc il a créé mon compte de stockage, il a créé mes éléments dedans. Une chose, une petite anecdote qui peut être intéressante aussi, par expérience, ce que est capable de faire aussi Azure Ressource Manager, déjà, c'est de créer plus d'un plus grand nombre de machines virtuelles à la volée. Je m'explique. Dans l'ancien mode, dans le portail classique, quand je faisais mes requests de faire des nouvelles machines virtuelles, que ce soit en PowerShell ou via du script, il fallait que j'attende à 3 minutes de libérer des ressources pour moi. On n'avait pas la possibilité de créer une VM, elle était en mode provisioning, de faire un new, de créer une nouvelle VM, parce qu'il disait justement qu'une ressource, qu'on avait déjà une action en cours qui était de provisionner une VM, il fallait alors attendre des alternances de 3 minutes pour pouvoir utiliser, ajouter ou supprimer une nouvelle machine. Avec le mode de Azure Resource Manager, comment ça marche? vous créez un package de déploiement donc, avec un certain nombre de ressources dedans, donc on va dire 5-6 VM ou 6 VM par exemple, 6 VIP, etc. Lui, il passe à travers de toutes les ressources, puis il va faire une demande au Data Center Azure. Voici ce que j'ai besoin comme ressources de provision, donne-les-moi. Donc là, il est capable de créer en alternance les ressources. Ça va donc beaucoup plus vite de créer des environnements via Azure Resource Manager. Si on parle d'un environnement SharePoint avec de la Etsy, etc., on est capable de proposer 4 serveurs SharePoint, 2 SQL en Amazon avec un witness, 2 Active Directory, etc., etc. Plus les environnements sont gros, plus on a des ressources. Là où il est intelligent dans notre code, on est capable de le dire, OK, pour créer cette VM-là, il faut d'abord que tu aies créé cette ressource-là. Pour créer cette ressource-là, il faut d'abord qu'il y ait cette ressource-là qui soit créée. Attends qu'elle soit finie pour créer celle-ci, qui dépend de celle-ci, etc., etc. Grâce à des dépendances, on est capable d'aider le data center Azure dans quel ordre il doit créer les ressources. Puis si la ressource ne marche pas, plante, il va réessayer pour vous automatiquement. Alors un exemple qui m'est arrivé, une machine virtuelle que je crée avec un nom DNS, donc Julien, test Julien, on va dire, .cloudout.net, qui est accessible de l'externe. Je l'ai créé via mon package de déploiement, puis je me suis trompé dans le nom. Ce n'était pas testjulien.cloudout.net, je voulais appeler testjulien22.cloudout.net par exemple. Lui, il est assez intelligent pour voir, pour aller supprimer le nom DNS utilisé dans Azure, attendre qu'il soit libéré dans tous les data centers pour pouvoir le réutiliser derrière. Donc ça, c'est un exemple un peu de l'intelligence de Azure Resource Manager. Je pourrais vous en donner plein, mais c'est un exemple. Donc ça conclut pas mal pour la partie portail. Donc là, il est en train de me créer dedans. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire un afficher tout et aller voir donc l'ensemble des groupes de ressources. Donc vous vous souvenez, on l'a appelé un Azure Group, je pense, Channel 9. Donc ce qu'on va aller faire, on va aller dans les paramètres pour afficher seulement les ressources groupes ressources groupes. Je pense que ça va aider si je vais dans les R. Voilà, ressources groupes. Donc j'ai un ressource groupe qui va s'appeler démonstration ARM Channel 9. D'accord? Donc ce que je vais faire, je vais prendre et je vais dire pin to start. Faux, il est fait. Puis j'ai aussi un success. Donc s'il va être dessus, notification, il me dit que déploiement succédé. En plus de ça, il me dit que le déploiement a réussi. Donc à ce niveau-là, il est capable de me dire ce qu'il va faire. Ma VM est correctement déployée et démarrée. Là, il vient de me le dire. Vous voyez, elle est dans un état running. Ça s'est fermé. Puis j'ai quand même un certain nombre de rapports. Donc si je vais dedans, je suis capable de voir où ça a marché, quel type de ressources il a provisionné, start, stop, vous voyez, toutes les ressources. Quand on peut rentrer un peu dans le détail, hein, on peut voir le compte de stockage, l'adresse publique, le virtual network. Vous avez vu que ça a été fait dans un ordre logique, hein, de ressources. Donc on peut le garder à des fins de logging. Ce qui est intéressant aussi, c'est pour débugger quand ça ne marche pas, de voir d'où vient le problème. Enfin, par exemple, le fameux 15 lettres pour le nom de la machine, si vous en mettez 16 dans votre script, vous n'allez pas le voir, mais lui, vous allez avoir une erreur. Donc on apprend de nos erreurs. Hein. C'est bien connu. Donc, je vais rentrer dans mon groupe de ressources. Puis ici, je vais voir un certain nombre de toutes mes ressources. Donc, voici ce que contient mon démonstration ARM Channel ressources, qui est mon groupe de ressources. Il y a donc une VM, une NIC, c'est une notion importante. Là, c'est vraiment, on est vraiment dans un mode beaucoup granulaire. Donc là, on est vraiment dans une interface, dans mon virtual network, j'ai ma VM. Mais qu'est-ce qui connecte les deux? Ben, c'est une carte réseau. Ma carte réseau sur ma VM est connectée à mon virtual network. D'accord? J'ai mon ACL qui permet de définir mes règles. J'ai également mon compte de stockage. J'ai mon virtual network. Pardon, ça c'est mon IP public, pardon. Et j'ai mon compte de stockage et mon virtual network. Vous avez vu qu'on est beaucoup plus granulaire. Quand on crée une VM via Azure Resource Manager, j'ai 6 ressources versus via le Classic Mode, j'en ai que 3. D'accord? Donc, rien ne m'empêcherait d'ajouter ici, add, d'ajouter une nouvelle ressource, de dire, OK, je veux soit une nouvelle machine, soit un nouveau compte de stockage, soit une nouvelle NIC. Ça peut être intéressant de dire, dans ma VM, je vais rajouter une carte, une seconde carte réseau qui, elle, connectée soit à un node subnet, soit à un load balancer. Les possibilités sont infinies. J'ai un certain nombre de ressources qui est disponible. Donc, voici pour le groupe de ressources, puis après ça marche pareil. Hein. J'ai ma VIP, j'ai mon nom DNS public, je peux me connecter en remote desktop dessus. C'est le même fonctionnement avec les mêmes capacités, le même niveau de sizing. C'est le même prix, hein. On ne paiera pas plus cher. Mais on est vraiment dans un mode de gabarisation, de standardisation. Si, chose qui est intéressante, si je vais dans l'ancien portail, on peut constater, donc là, ce que je peux faire, je peux actualiser aussi, hein, juste pour être transparent. Si je vais dans l'ancien portail, comme je vous disais, tout ce qu'on fait dans le nouveau portail reste dans le nouveau portail en termes de Azure Resource Manager, de gestion de ressources. Si je vais dans l'ancien portail, je n'ai pas la possibilité de voir les ressources. On a seulement le mode classique dans l'ancien portail, donc je ne verrai pas mon nouveau. Enfin, il y a quelques éléments que je vais voir, par exemple mon Virtual Network, je vais le voir. Mais en tout cas, l'AVM, les VIC, on ne peut pas les voir, les NIC, on ne peut pas les voir, le compte de stockage, vous n'allez pas le voir. Donc, il y a certains éléments où on voit clairement que Microsoft met moins d'efforts dans l'ancien portail. Donc, si je vais dans mes machines virtuelles, vous voyez que j'ai toujours l'ancien mode classique, là, je viens de test, j'ai toujours le cloud service, qui, au passage, cloud service, vous avez vu que je n'ai pas cette notion de cloud service dans le mode de ressources manager, hein. C'est ce qui a du sens. J'ai mon compte de stockage, par contre, ah, ben non, j'ai pas, avant, on voyait les virtual networks, maintenant, on ne le voit plus. Donc, c'est vraiment 100% classique mode dans l'ancien portail. Dans le nouveau portail, ben, on peut voir les deux. D'accord? Donc, c'est déjà un avantage du nouveau portail. Donc, c'est pas mal une petite introduction à ça. Je suis vraiment allé un peu plus loin dans les détails cette fois-ci, hein. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi, c'est comment s'outiller. On a aussi la possibilité, si vous allez sur le site de azure.microsoft.com, dans Community, vous avez déjà, vous allez dans les templates, vous avez déjà des templates de Azure Resource Manager. Donc des templates déjà faits dans un langage, on va le voir plus tard dans le langage, je vous ai parlé de JSON. Mais par exemple, si je veux un environnement ou alors une virtuelle machine, si je fais entrer, j'ai déjà des éléments, donc deployed simple Windows VM with tag in WestOS. C'est un exemple. Install Minecraft on Ubuntu VM, application network, etc. Moi, je vais aller dans un élément que je maîtrise et que je connais bien, c'est SharePoint. Donc, SharePoint, j'ai la possibilité de créer un nouvel environnement avec de l'Edge ou un environnement. Donc, Edge, ce qui veut dire, c'est deux serveurs SharePoint, deux serveurs SQL avec un troisième serveur Witness, deux serveurs Active Directory avec des load balancers, etc. Ou alors un 3 tiers, 3 VM, donc l'AD, le SharePoint, le SQL. Et si, donc je clique dedans, on ne va pas rentrer dans le détail, j'ai déjà plein de choses qui sont là. Mais si je déploie tout Azure directement ici, ce que ça va faire, c'est quand même très intéressant. Ça m'ouvre automatiquement un nouvel onglet avec portail.azure, donc ça me redirige vers le nouveau portail. Vous comprenez maintenant pourquoi, hein, tout ce qui est Azure Resource Manager est seulement fait dans le nouveau portail. Ça m'ouvre ma subscription. Ma dernière subscription dans laquelle je faisais action. Et ça m'ouvre une blade en mode Create et Create Custom Deployment. Avec dedans, si je vais dans Edit Template, vous allez voir que j'ai déjà tout un code, un charabia, un code dans lequel on va rentrer un peu plus en détail, qui est de créer un environnement SharePoint, en fait tout un code JSON, qui dedans reprend un certain nombre d'éléments, un certain nombre de ressources en fait. Donc, on va pas challenger ça. Par contre, ce qui m'ouvre par défaut, il m'ouvre cette blade paramètres, celle-ci. Où dedans, il me demande, OK, comment tu vas appeler ta ferme? Comment tu vas appeler ton compte de stockage? Donc, test stockage. Et c'est là où il va falloir faire attention avec beaucoup de pratique. Bon, ici, on peut mettre n'importe quoi. On ne va pas avoir de contrôle. Il va vous dire, OK, ce qui est un peu bête, parce que lui, il vérifie juste que c'est une chaîne de caractères. Par contre, vous vous souvenez, avec un compte de stockage, on peut pas mettre de majuscule. Donc, si je tape test, stockage comme ça. Pour lui, ça va passer. Vous voyez? Et quand vous allez déployer, à faire un OK, faire un create en bas à gauche, vous allez avoir une erreur parce qu'il va vous dire que pour la ressource de type stockage, vous ne devez pas avoir de majuscule. Donc les mêmes règles s'appliquent. Hein. Donc à l'appeler stockage C9 Julien stock. On va appeler SharePoint Farm, on va laisser comme ça, on va laisser PrimeRS. On va tout laisser par défaut, juste un, le vignette, le G. C'est vraiment très granulaire, je peux configurer plein de choses. Password, laisser les VM size, le domaine. Donc la possibilité du script est vraiment poussée, parce qu'on a aussi, on a aussi la possibilité de pousser comme ressources des plugins DSC qui permettent en plus d'exécuter dans Azure, donc de créer dans Azure notre VM, mais une fois que la VM est provisionnée, d'exécuter un code PowerShell dessus. Donc, une extension DSC qui va, bon, par exemple, créer un environnement, créer un domaine Active Directory, installer SQL. Pour HL, on sait, hein, les possibilités sont infinies. Donc, c'est pour ça qu'on reprend le concept. Ça va commencer un peu à mousser dans votre tête, de se dire, OK, c'est quand même intéressant pour répliquer mes environnements. Dans un environnement DevOps, là, j'ai un script assez simple qui permet de créer un environnement SharePoint. Je pourrais le modifier à ma manière et dire, OK, voici mon équipe de développeurs, voici le script de ma compagnie, voici le script que je vous fournis pour provisionner vos environnements SharePoint dans vos MSDN, dans vos comptes de production. Donc on va aller un peu plus loin. Je ne vais pas vous montrer ce que fait le script, hein, parce que c'est vraiment pas le but. Mais ce que je vais faire, je vais juste lancer le déploiement. Très original, je mets un peu tout partout. DNS préfixe. Aussi, une chose qui est intéressante avec Azure Resource Manager, un peu plus de détails un peu profonds, mais vous avez la possibilité de créer des choses qu'on ne pouvait pas faire, des sous-domaines. Avant, quand dans un mode classique, vous sonnez vos cloud service, cloud.net, vous l'appelez TotoTest. TotoTest, ça faisait TotoTest.cloud.net. Avec Azure Resource Manager, vous avez la possibilité de créer des subnets. Vous pouvez créer SharePoint Dev ou SharePoint Dev Julien.toto.cloud.net. Ça peut être intéressant aussi. Donc, j'ai fait OK pour les paramètres. Il me demande juste dans la description dans laquelle faire le nom du groupe de ressources que vous voulez créer. On va l'appeler Channel 9 Demo RM.com dans l'Est. Alors, ça, ils l'ont rajouté récemment. Il faut ajouter les termes dans le sens de là, en gros, il vous dit si vous faites appel à une ressource payante, comme tout ce qui est dans le market en fait de Azure, attendez-vous à être chargé. Qui a du sens. Et donc là, il est en train de submit le déploiement. Le déploiement a été envoyé, a été créé, pardon. Puis là, pareil, même concept que tout à l'heure, je peux aller voir justement tout ce que j'ai rentré comme paramètre de mon script et où ça en est. Donc là, il m'a déjà fait des choses, il a déjà créé des choses. Si je clique ici dans le ressources groupe, il va m'ouvrir le groupe de ressources qu'il m'a créé. Puis vous allez voir qu'il y a déjà des ressources qui sont en train de déployer, qui ont déjà été déployées. Ça va très vite. Donc là, c'est ce que me fait le script. Il crée en fait des groupes de Availability Set, des load balancers, des cartes réseau, comme je suis en train de l'ouvrir, etc., etc. Assez rapidement, il va arriver à la première machine virtuelle. Vous avez vu, il va créer déjà des IP publics, il va créer un VNet et un compte de stockage. Donc là, il devrait pas tarder à me provisionner le premier Active Directory, il va me créer la VM Active Directory. Une fois que ça va être créé, il va attendre. Une fois que c'est fait, fini. Qu'il a le statut qu'elle est créée, cette ressource est créée. Il va m'envoyer. Ah, j'ai une erreur. Voilà un peu vite. Il va m'envoyer. Il va être capable de rouler le compte de service, le DSC, pardon. Create, par exemple, Active Directory domain.psa. Donc là, j'ai une erreur. Ça peut être intéressant pour troubleshoot. J'ai une erreur sur la SharePoint Farm, Virtual Machine. Un paramètre, Computer Name, comme Date 15. Oui, parce que. Là, il me dit qu'en fait, la SharePoint Farm AD, AD serveur, vous avez vu, ce que fait le script, c'est un peu bête, là, il faudrait l'améliorer, c'est qu'il prend le nom de la première, donc ici, je vais vous montrer, le nom du SharePoint Farm Name, et il rajoute tiret AD serveur pour les serveurs AD, tiret SP serveur pour SharePoint, tiret SQL serveur, etc. Donc, sachant que ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça ne laisse pas grand choix. Hein. Déjà, avec le tiret, ça fait déjà 15. Donc, tout ce qui est après est en tout. Donc, on a une limitation. Donc, c'est un exemple. C'est comme quoi Azure Resource Manager, ça prend beaucoup de tests et beaucoup de temps, de patience. Mais une fois qu'on est dedans, le retour sur investissement est vraiment, vraiment intéressant. Donc, ce que je peux faire facilement, sachant qu'il m'a quand même créé des choses, si ça plante, comme là, j'ai un fail, les ressources sont encore là. Hein. Donc, ce que je vais faire un delete. Donc là, ce qu'il va faire clairement, il va me supprimer en fait, ici, si je vais là dans mon groupe de ressources, il va me supprimer le déploiement. Donc il va me supprimer une à un toutes les ressources et il va supprimer le groupe de ressources. D'accord? Donc là, on va le voir. Logiquement, si, je ne sais pas si on arrive à temps, c'est en train d'être supprimé. Si je refresh, petit à petit, ça devrait disparaître. Bon, en tout cas. Faites-moi confiance, ça marche. Un élément qui est intéressant aussi avec Azure Resource Manager, donc je vais reprendre mon. Ah, j'ai un succès. Vraiment supprimer ce qu'il fallait. Donc ici, je fais un clic droit NP. Un élément, donc je reprends mon premier exemple qui est où j'ai créé ma simple VM. J'ai la possibilité facilement, grâce au RBAC, donc RBAC c'est le Remote Base Access, je ne sais plus vraiment ce que ça veut dire. Je vous le mettrai, je regarderai puis je vous mettrai dans l'inscription. En gros, c'est de gérer l'accès à la ressource. Ça, c'est une chose super intéressante, surtout dans le cadre des Enterprise Agreements, dans les gros comptes Azure. Avant, malheureusement, via l'ancien portail, on n'avait pas le choix de donner des droits d'administrateur à toutes les ressources. Donc, en fait, on donnait un droit d'administrateur à ma souscription et tout le monde avait, enfin, la personne était admin de tout. Là, j'ai la possibilité facilement de donner des droits granulaires sur mon ensemble de ressources. Je m'explique. J'ai créé un environnement comme SharePoint juste avant. J'ai la possibilité simplement d'ajouter ici soit une ressource de type administrateur, donc elle pourra supprimer, créer, ou alors soit lecteur, soit collaborateur, soit reader. Il y a plein de choses qui sont déjà dedans, puis vous pouvez en créer d'autres groupes. Avec, il y a toutes les notions d'héritage, etc. Mais j'ai la possibilité facilement d'ajouter une personne de mon Active Directory de ma souscription, d'accord, soit via un compte Live ID, de dire OK, ben, très bien, Sébastien, par exemple, je lui donne le droit sur cet environnement de ressources groupe, sur ce groupe de ressources, d'être lecteur, donc, ou tout simplement collaborateur, de pouvoir éteindre ou allumer la VM, de pouvoir la rebooter. Mais je ne veux pas qu'il puisse supprimer ou d'ajouter de ressources. Donc, ça, c'est des choses intéressantes. Si je crée divers groupes de ressources dans la même souscription, de donner des droits, je suis beaucoup plus granulaire dans mes droits. C'est une notion qui est très intéressante là-dedans. Et je suis aussi capable de descendre au niveau de la ressource même. Je suis capable de donner un droit seulement sur la VM. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire de la même manière, assez simplement, de dire ici, toujours l'option, notion d'accès, de dire, OK, ben Sébastien est admin de la VM, mais par contre, Jean, qui est l'admin réseau, lui, il est seulement administrateur des NIC et des VIP. Juste un exemple, hein. Et c'est quelque chose qui est tout à fait concevable. Donc voilà pour ça. Dernier petit portail que je voulais vous montrer, une chose qui peut être intéressante aussi, c'est le ressources.azure.com qui est en preview, qui vous permet de drill down dans vos subscriptions, dans vos éléments, assez simplement d'aller dans les groupes de ressources que vous créez. Donc ici, j'ai mon channel 9, et d'aller voir un peu, c'est plus une notion de debug, hein, d'aller voir dans ce qu'on appelle des providers, toutes les ressources. De voir la manière dont ça a été scripté, la manière dont ça interagit. Vous avez vu, j'ai des choses ici, des VM size, etc. Vous allez comprendre au fur et à mesure, vous allez jouer avec, à quoi sert cet élément. D'accord? À savoir qu'il y a toute une couche, une API REST sur Azure Resource Manager. Donc, avec du code, facilement, vous créez des templates. Bon, ben, je vais venir juste après en PowerShell. Ou alors, moi, ce que j'utilise, c'est Visual Studio. Alors, je vous rassure, je ne suis pas un développeur, d'accord? Mais avec Visual Studio et le SDK de Azure installé, d'accord? On est capable de faire un nouveau projet assez simplement et de lancer un projet de type, donc on est dans Cloud, de type Azure Resource Group. Ça, je vous dis, c'est vraiment en ayant le SDK installé. Azure Resource Group, on va l'appeler Demo Channel 9. Okay. Donc quand vous faites ça, qu'est-ce qui va vous créer un petit package JSON, vous allez voir, de groupe de ressources. Donc on a la possibilité assez simplement de créer, de partir de rien, blanc template, ou alors de créer par exemple une virtual machine, comme j'ai fait via le portail. Si vous faites ici OK, vous allez voir que ça va vous créer déjà un script tout préparé pour qui va vous créer une machine en mode ARM. Ça peut être intéressant pour commencer à apprendre comment marche Azure Resource Manager. Donc c'est ce qu'on va faire. J'ai dit juste de créer une machine virtuelle. Et ce que ça me fait à droite, donc dans le Solution Explorer, j'ai trois éléments, enfin, trois dossiers du moins. Donc on va commencer par en haut. J'ai le PowerShell qui me permet de déployer, je rentre dedans, c'est quelques lignes PowerShell qui me permet, enfin quelques lignes. C'est toujours plus compliqué avec Microsoft, mais en gros, c'est la ligne la principale, c'est ces deux lignes-là, enfin, surtout celle-ci. C'est un New Resource Group qui fait appel donc à ce fameux fichier qui est le nom de votre projet, .json. Ça, c'est l'élément vital d'Azure Resource Manager.                                                                                                                                                                     ².==                                                                                                                             ││　     ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ c'est votre template. D'accord? Donc, de quoi est composé votre template? Vous avez les paramètres, les variables et les ressources. C'est les trois éléments indispensables pour ça. Donc, vous commencez à comprendre, en gros, donc on va commencer cette fois-ci par en bas, qu'est-ce que c'est les ressources? Les ressources, ici, j'ai le JSON Online qui permet donc de déployer, de drill down un peu dans qu'est-ce qui se passe. Alors, si vous vous souvenez bien, je reviens ici sur mon portail, ici. Si je prends la démo que je vous ai faite juste avant, quand j'ai créé une machine virtuelle via le portail, je vous disais, c'est la boîte de Lego, là, ça vous crée six ressources. Une VM, certes, mais aussi une interface privée, donc une NIC, une interface publique qui est une VIP, une ACL, un VNet et un compte de stockage. Si je vais dans Visual Studio, c'est la même chose, donc ça crée, sauf que l'ACL n'est pas là, elle n'est pas là. Mais on a le compte de stockage, la VIP, l'adresse publique, on va y arriver, le Virtual Network, la NIC et la Virtual Machine. Donc, dedans, si je regarde un peu comment c'est fait, Virtual Machine, donc là, c'est, pour être honnête avec vous, le plus simple pour ça, c'est vous tapez dans votre navigateur de recherche, Virtual, hop là, Virtual Machine, il y a plein de blogs, hein. Forcément MSDN, la Bible. Vous avez toute une série d'articles intéressantes. Celui-ci de Neil, c'est pas celui-ci que je vous ai montré, c'était l'officiel. Tiens, mon cher ami Alexandre Brisebois est ici. Virtual Machine, je pense que ça va être ça. Bon, je vais retrouver le lien. Je vais le mettre en bas. Parce que si je fais ça, ça va m'envoyer vers le portail. C'est pas ce que je voulais. Ok. Je vais vous retrouver le lien. En gros, ce que le lien vous donne, c'est vraiment les éléments de base qui est bon, le type. C'est le type de ressource. Donc, on fait appel au provider qui est le type compute. On veut une virtual machine. Le nom de ma ressource qui est ici, on fait appel à une variable. Je vais revenir juste après. La location, qui est aussi une variable. Depend zone, ça c'est intéressant. Je veux que cette ressource-là, qui est ma machine virtuelle, soit créée seulement quand ces éléments-là sont créés. Je veux d'abord avoir un compte de stockage et NIC. Bon, ce qu'il va faire, il va aller au compte de stockage ici. Hop, qui est juste au-dessus forcément. C'est compte de stockage qui est là, donc qui est le premier qui crée. Donc, même principe. Le provider, c'est donc de type storage à compte. Ici, on a un paramètre différents de variables. Vous vous souvenez, en bas j'avais variable, donc ici j'ai variable et paramètres. C'est les deux éléments à comprendre que je vais vous expliquer juste après. Des tags et une propriété. Donc ça c'est ma ressource, elle est juste là. Vous avez vu que c'est pas très compliqué. Les tags, donc ça c'est une notion qui est intéressante dans Azure. Très peu de personnes l'utilisent, mais ça peut être intéressant ici. Donc chaque ressource, vous pouvez les taguer, de dire via du code après, de dire ma key par exemple, manager. Donc ici je vais rajouter un tag qui s'appelle manager, qui a une valeur Julien. Donc, facilement, grâce à du code ou PowerShell, je vais pouvoir appliquer, OK, sors-moi tous les éléments, toutes les ressources qui ont pour tag manager Julien. C'est juste une notion de tri. Ça peut être intéressant quand on a beaucoup, beaucoup de ressources. Donc là, ici, tag, display name, storage account. Propriété de type account type, variable. Ça fait appel à une variable cette fois-ci, qui s'appelle storage account type. Donc, on y vient. Les variables et les paramètres. Les paramètres, c'est les éléments où on laisse le choix à l'utilisateur qui fait appel à ma ressource, mon groupe de ressources, de rentrer librement. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 paramètres dont on laisse l'utilisateur avoir le choix. Et j'ai enfin 17 variables qui, en fait, sont des variables, comme du code, qui sont des variables forcées. Ici, par exemple, j'ai une variable de type qui s'appelle WestUS, qui est la location. Donc, en créant une variable WestUS, c'est-à-dire que je ne laisse pas le choix à l'utilisateur qui fera appel à mon script de rentrer un paramètre, il n'aura pas le choix de créer ses ressources dans WestUS. Donc ça peut être intéressant pour plusieurs points. Une fois de plus, dans un esprit de DevOps, de gabarisation, de standardisation, je ne veux pas que mes développeurs puissent s'amuser, par exemple, ici ça donne un exemple, vous voyez, VM-Size, à aller provisionner des D3, des machines D3, D4, qui seraient overscopées pour leurs besoins. Je veux avoir un contrôle de ce que je déploie. Par contre, je veux qu'il rentre le nom du compte de stockage, le nom du admin qui va l'utiliser avec le password, ça a du sens, le nom public pour le cloud app, l'OS qu'ils ont besoin, et enfin, les metadata, non, metadata, pardon, c'est la description, et c'est tout. Donc Windows, la version de l'OS, parce que c'est un Windows Server 2012 ou 2012 Data Center ou 2008 R2 par exemple, le nom DNS, l'admin password, l'admin username et le storage account. Ensuite, rien ne nous empêche de rajouter un autre paramètre qui pourrait être utilisé plus bas, que je pourrais appeler, on va l'appeler, je sais pas, ben location par exemple. J'aimerais la location, je ne veux pas que ce soit une variable, je ne veux pas que ce soit quelque chose de forcé. Je veux laisser à mon utilisateur, l'utilisateur là pouvoir entrer eux-mêmes. Donc je vais dire que c'est de type. Merci Visual Studio, hein, je vais te couper ça. De type, hop là, string. La default value, elle va être par exemple Est US, parce que c'est chez moi. Puis, je vais mettre une metadata, qui est comme une description en fait. Metadata. Là, je vais mettre. Mettre vraiment en français. Description. Il n'y a pas d'autocomplétion pour celle-ci. Description. Que je vais mettre en français. Choisir le dessin. Puis, c'est tout. Alors, comme c'est la dernière, c'est quelque chose à rajouter. Il faut que j'ajoute une virgule au-dessus. Pour dire qu'il y a une autre. Un autre paramètre que j'ai ajouté, et vu que c'est la dernière, donc je ne mets pas de virgule là. Donc ce que je vais faire, je vais dire, OK, location, je ne veux pas qu'il soit lui une variable, je veux laisser le choix à mes utilisateurs de le rentrer. Donc je vais supprimer la variable location, et je vais, par contre, forcément, ce n'est plus la location dans mes ressources, ce n'est plus une variable, mais c'est un paramètre. Ici, je vais dire. Parameters location. Là, il le retrouve. Donc, c'est quand même cool parce que si je mets un 1, par exemple, qui est un paramètre qui n'existe pas, il me le dit. Donc là, on est quand même aidé. Partout où j'ai du rouge, c'est quelque chose qui va s'appliquer automatiquement. Donc là, la beauté, si vous comprenez bien, c'est-à-dire que je demande une fois à l'utilisateur de rentrer la location et elle va s'appliquer dans toutes mes ressources. C'est quand même quelque chose de cool. Donc, à ce niveau-là, c'est juste un exemple, j'ai rajouté un paramètre. Okay? Chose que je peux faire avec Visual Studio aussi, c'est ajouter, en faisant un clic droit sur ressources, une ressource. Alors, elles ne sont pas toutes là. Ça vient avec le SDK. J'ai quand même un certain nombre de ressources. Donc, un web app, un virtual network, machine Ubuntu, je peux rajouter une autre adresse publique. Mais un exemple, par exemple, si vous remarquez bien, je n'ai pas de load balancer ici. D'accord? Donc, c'est quelque chose que je vais devoir faire moi-même si j'ai un load balancer. Et plein d'autres. Le VPN n'est pas là, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui arrivent au fur et à mesure avec le SDK d'Azure. Là, en plus, je ne suis même pas à jour. Je ne suis pas à jour au niveau du SDK. Je sais qu'il y a le nouveau qui est sorti, le 2.7, 2.7, 1. Donc, je pense qu'ils ont mis à jour des choses là-dedans. Regardez. Bon, je vous laisse réjouir avec ça. Alors, premier moyen qui est simple, hein, qui est un peu qui est straightforward, mais c'est de prendre tout, faire un contrôle-là sur mon fichier du sol, faire un copier et d'aller dans mon portail ici. Bon, ce n'est pas la meilleure manière, hein, mais c'est juste de comprendre le cheminement. Je suis capable simplement de faire un compute. En fait, ce que je fais, moi, je fais marketplace. Je suis feignant de chercher, je tape toujours un everything. Au moins là, j'ai la recherche, puis je vais taper interactive template. Je pense que template, ça ne marchera pas. Mais c'est template deployment, c'est ça. Template deployment, c'est le premier, d'accord, que je prends. Template deployment, c'est comme on a fait juste avant, ça. Un template de déploiement me laisse la possibilité de faire appel à la blade qu'on a vu précédemment. Vous avez vu, ça doit ressembler à ce qu'on a déjà vu avant. Ici, sauf que j'ai la possibilité d'éditer le template. Par défaut, il est vide. Vous allez voir, j'ai les quatre éléments, hein. Voilà, le schéma, configuration, paramètres, tout est vide. Donc vous vous souvenez, dans Visual Studio, j'ai pris ici mon code, j'ai fait un copy, Ici, ce que je vais faire, je vais tout prendre. Je vais faire un pass. Je vais faire un contrôle B. Hello. Et je vais faire un save. Là, logiquement, si la blade se ferme, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. D'accord? La beauté avec Visual Studio, c'est qu'il nous a fait quand même un check. Puis si on va dans les paramètres, maintenant vous savez ce que c'est un paramètre, vous avez vu qu'ici, j'ai un certain nombre d'éléments qui s'affichent, qui sont en fait rien d'autre que les 6 paramètres que j'ai, dont la location. Vous avez vu ici, j'ai la métadonnée, choisir le PC. Donc ici, je peux mettre mes éléments. Donc ici, admin password, qui est un type de type secure string, d'accord? Vous avez vu que c'est chiffré au moment. Puis ça, c'est simplement en disant que ma ressource est de type secure string, d'accord? Et non pas string. Donc vous voyez la puissance de ça, quand même. Bon, je ferai ça, puis je ferai OK. Puis créer un groupe de ressources, c'est le même fonctionnement. J'ai la possibilité de le fournir. Autre point, je peux aussi donner simplement ce package, en fait, la compilation, le résultat de ce package qui est le fichier JSON avec le point PS1. Ce que ça va faire, je ne vous ai pas parlé de la Z-copy, hein, c'est l'outil qui permet de copier des éléments, des binaires, si on doit copier des images, quoi que ce soit, ou des VHD, c'est juste qu'il est là en option. Donc j'ai la possibilité de donner ce script-là avec mon point JSON à n'importe quel développeur, n'importe qui. J'ai même la possibilité de le mettre dans un gestionnaire de sources, donc un Visual Studio Online, où mes développeurs peuvent le faire appel. J'ai aussi la possibilité, rien n'empêche, c'est ce que font ici, ce que fait ici la communauté. Vous vous souvenez, dans azure.com, les gabarits que la communauté propose, notamment l'exemple que je vous ai présenté juste avant de SharePoint, de le mettre dans un GitHub. Donc ici, je vais reprendre mon script SharePoint. SharePoint, je vais créer, donc je vais reprendre le script que j'avais juste avant. Ici, quand j'étais dedans, j'ai fait deploy to Azure, mais en lisant un peu entre les lignes, j'ai aussi la possibilité d'en apprendre plus sur GitHub. Chose que je vais faire. Là, ce que ça me fait, c'est clairement le même concept. Hein. Bon, il y a des éléments en plus, mais vous avez vu qu'ici, j'ai le Azure Deploy.json qui est, si je clique dedans, bon, juste pour l'afficher. Maintenant, grâce à ma vidéo, je suis un peu prétentieux, mais en tout cas, maintenant, j'espère que vous en connaissez un peu plus sur Azure Resource Manager. Vous commencez à comprendre comment ça fonctionne. Même concept. C'est un fichier beaucoup plus gros, mais j'ai des paramètres, une série de paramètres. J'ai des variables, tout un environnement de variables, et des ressources. Puis là, la beauté de tout ça, vu que c'est un langage qui est quand même, maintenant on l'avait compris, qui est standard pour Azure Resource Manager, rien n'empêche de, je sais pas si ça va marcher, je pense que oui, on va tester ça. Super. Donc rien n'empêche de prendre tout ce code, de le copier, bon c'est pas très, très efficace, mais de le copier soit dans Visual Studio si je veux partir d'une bonne base, je peux directement aussi le télécharger, hein, le pool depuis GitHub, hein, ça n'a pas grand sens ce que je fais, mais directement le copier dans le portail aussi SharePoint depuis un groupe de déploiement, j'ai la possibilité de travailler. Moi honnêtement, comment j'apprends Azure Resource Manager, c'est grâce à la communauté Microsoft et la communauté qui pose des exemples, des démos. Je joue avec, je m'adapte. Si j'ai envie de SharePoint, non, SharePoint, ben, je pars de ça, puis j'essaye avec. Les templates sont déjà bons, et comme je vous dis, le SDK de Azure nous permet déjà d'avoir un certain nombre d'éléments. On va essayer ça, copier. On va faire un contrôle A ici, supprimer, et un colon. Ah, c'est ce que j'avais peur, ça vient avec les numéros de colonne. Ah. Ok, bon, ça va pas marcher, mais vous avez vu qu'il y a quand même des choses qui sont reconnues. Puis on parle quand même de certains éléments en plus, hein. Donc, c'était pour vous montrer ça. D'accord? On va revenir ici. Chose qui est intéressante aussi, comme je vous parlais, il y a aussi toute la série des PS1, donc des DSC, des packages DSC qui sont déployés. Puis, ici, la personne qui a fait ce code-là nous explique la manière dont son code est fait. Puis, la beauté de son code, c'est ça que c'est que c'est d'extension DSC, du moins que c'est son code-là, est mis à jour sur GitHub. Donc, dès qu'il est mis à jour, dès que les éléments sont mis à jour, les templates, les gabarits sont mis à jour. Donc voilà. Donc c'est pas mal tout pour Azure Resource Manager. Une grosse introduction, une bonne introduction, je l'espère. J'espère que je suis pas allé trop vite. N'hésitez pas en tout cas à poser des questions. N'hésitez pas surtout à demander d'autres vidéos sur des éléments. Là, je regarde, on est quand même à 55 minutes de vidéo. Ce que je vais faire, je vais le Enfin, ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est deux vidéos. Je pense que je vais couper en deux. J'introduirai ce que je fais dans l'une et dans l'autre. Donc, pour rappel, Azure Resource Manager, qui est le nouveau mode de déploiement, d'accord, de Microsoft, de tout gérer en ressources. Donc là, si on prend l'analogie que je vous expliquais, c'est vraiment la boîte de Lego, d'accord, la possibilité facilement d'être beaucoup plus granulaire dans nos déploiements, dans le script de déploiement, puis d'avoir un meilleur contrôle de ce qu'on fait. Versus le classique mode, le mode classique dans l'ancien portail, qui pour l'instant Microsoft n'a rien communiqué sur la disparition de ce mode-là, il marche encore, il est encore utilisé, je l'utilise encore, ne vous inquiétez pas pour ça, c'est juste une autre manière de travailler. Intéressez-vous, pardon, j'ai eu un peu de mal, à ce nouveau mode, pourquoi? Pour conclure un peu sur cette thématique-là, Microsoft a annoncé Azure Stack. Donc là, je reviens à mon beau t-shirt qui est System Center. Si jamais vous avez l'habitude de jouer avec le App Controller, si vous avez mis en libre service un portail via System Center VMM, de donner la possibilité à vos environs, à vos clients, pas vos clients, mais du moins des personnes en interne, de déployer des VM sur votre environnement on-premises via le App Controller. La nouvelle version de ce contrôleur va être remplacée par le Azure Stack. Et le Microsoft nous dit, si vous voulez faire du Azure chez vous, ça va être grâce à Azure Stack. Donc en gros, vous allez pouvoir déployer le même portail, ce portail-là en fait, chez vous, dans votre environnement on-premises, grâce à la suite System Center, et vous serez capable de prendre vos scripts de déploiement JSON, donc les Azure Resource Manager, et de les déployer soit dans le cloud, soit on-prem, de jouer avec, d'être dans ce mode DevOps aussi. Donc c'est quand même un gros investissement, je le conçois. JSON, les outils Visual Studio, etc. Ce n'est pas des choses qu'on fait tous les jours en tant qu'IT pro, mais il y a un gros gain. Honnêtement, avec mes clients, je le vois, c'est dur à comprendre au début, mais après, ils allument, ils comprennent. Et c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus dynamique de travailler dans ce mode-là. Pas besoin de travailler avec des scripts PowerShell dont ça évolue très vite. Il faut mettre à jour les scripts PowerShell, les commandes PowerShell évoluent, notamment la dernière en date, le switch mode, donc cette commande-là, je l'ai vue ici, si je viens ici dans ce script-là. Ce switch Azure Mode, Azure Resource Manager est deprecated, d'accord? Ce qui veut dire que Microsoft ne va plus le mettre en pratique, ça va être directement intégré. Ce qui veut dire que vous allez voir mettre à jour encore vos scripts PowerShell pour cette commande-là, mais ça c'est juste un exemple. Si vous avez dans une base déployé vos environnements PowerShell en mode non Azure Resource Manager, vous avez le gain de latence aussi. Si c'est des environnements à 5-6 VM, il va avoir un gros gain de temps avec ça. Enfin, cette possibilité de donner des accès beaucoup plus granulaires. Vous avez vu, j'ai la possibilité de donner droit de collaborateur, administrateur sur mes groupes de ressources. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos commentaires. Puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.